VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Tchad, 11 morts, 5 policiers, 5 éléments de Boko Haram et un informateur de la police. Tel est le bilan d'une opération policière tchadienne tôt ce matin à N'Djamena contre le groupe islamiste nigérian, selon un porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Plusieurs ceintures bourrées d'explosifs ont été saisies dans le cadre de ce coup de filet qui fait suite au double attentat du 15 juin dans la capitale tchadienne qui avait fait 38 morts, dont les 3 kamikazes à l'origine des attaques. Avant l'opération de ce lundi, le parquet de N'Djamena avait annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste et l'arrestation d'une soixantaine de personnes, dont des Tchadiens, des Camerounais, des Nigériens et des Maliens, toujours dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 15 juin. Au Mali, 2 attaques djihadistes ce week-end. La première samedi à Nara, près de la frontière mauritanienne, et la seconde dimanche à Fakola, près de la frontière ivoirienne. Et ce, une semaine après la signature de l'accord de paix à Bamako. Plus de détails avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
L'attaque de Nara, qui a fait 12 victimes, dont 3 du côté des soldats maliens, était sans surprise, car la localité de Nara se trouve à côté de la forêt de Ouagadou, sanctuaire des islamistes au Mali. La mairie, les sièges d'une caisse d'épargne, la préfecture, les locaux des agents des eaux et forêts et un véhicule de la gendarmerie ont été pillés et brûlés par les bandits armés qui ont attaqué la localité de Fakola dans le cercle de Kolandjeba. D'après le député de Kolandjeba, Dr Omar Mariko, ces 2 attaques ne doivent pas mettre en cause la sincérité des acteurs de la CMA qui ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation il y a une semaine à Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste au Mali où l'on signale une forte hausse des prix de certains produits de première nécessité à Gao, dans le nord, en ce mois de Ramadan. Les populations locales espèrent un geste de la part des commerçants. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, nous en dit plus.
Presque tous les produits de première nécessité connaissent une augmentation, comme le signale la Madame Aissata Idrissa, ménagère à Farangiré, que nous avons rencontrée au marché de Sosokoira.
Vraiment, le marché est dur, c'est très dur, vraiment. La viande, c'est cher, l'igname aussi, c'est cher, les haricots aussi, les marchés comme c'est tellement cher.
Ainsi, le kilogramme de pommes de terre passe de 600 à 700 francs CFA, le kilogramme d'oignons de 150 à 300 francs, le kilogramme d'igname de 400 francs à 500 francs. Le carburant aussi connaît une augmentation, il passe de 500 francs le litre à 650 francs à la pompe. Sauf l'huile vendue à 750 francs le litre, le paquet de lait à 1250 francs et le kilogramme de sucre à 500 francs n'ont pas connu de hausse. Au marché d'Amien Boiteux, le kilogramme de viande sans os passe de 2000 francs à 3000 francs. Au marché de volaille, les prix varient entre 2500 et 4000 francs CFA. Pourquoi donc cette hausse des prix? Certains occupants des marchés de Gao nous expliquent les raisons.
On ne sait pas, nous les petits commerçants, c'est les gens qui nous donnent. Si les gens augmentent, il faut qu'on augmente. Si les gens descendent, il faut qu'on descende.
Le marché est dur parce que là où on achète les marchandises pour amener à Gao, c'est là-bas qu'ils sont durs parce qu'on avait augmenté au transport. Le transport, c'est 20 000. C'est pour cela que le prix aussi, on avait ajouté un peu là-dessus pour avoir au moins ton argent.
En ce mois béni de Ramadan, les populations de Gao qui portent encore les séquelles de l'occupation invitent les commerçants à faire une réduction sur les prix, d'où cet appel de Mme Halimatou Sissé, ménagère au château.
La vie de Gao est très dure. Hein. Vraiment, les gens sont vraiment fatigués. Tout le monde crie, ça ne va pas partout. Tout avec le mois de carême, la fête qui s'approche, c'est pas facile.
Je demande vraiment d'avoir pitié à la population, vraiment de voir comment ils peuvent réduire le prix pour que la population puisse mieux vivre.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Bénin, les électeurs se sont rendus aux urnes hier pour choisir leurs représentants au sein des conseils communaux et locaux. Un scrutin sans histoire dans la plus grande partie du pays. Des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Les municipales, communales et locales, retardées depuis plus de 2 ans, se sont finalement tenues. Ce dimanche, 28 juin 2015, sur toute l'étendue du territoire béninois, et malgré la pluie qui s'en est mêlée, les opérations ont démarré à l'heure. Dans la plupart des bureaux de vote visités, la plupart des votants rencontrés sont contents d'avoir accompli leur devoir civique. Pour une fois, ils n'ont pas trop critiqué l'organisation.
Je suis venu voter sous la pluie. C'est bien organisé, c'est bien fait, j'ai rien à redire.
J'ai déjà voté autour de 11h dans une ambiance conviviale. Mes impressions sont très bonnes. Au cours de la campagne, tout le thème a épaté.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
À noter que le vote a été suspendu dans certaines localités du centre du pays par la Commission électorale nationale indépendante, faute de matériel adéquat de la part de certains partis et alliances en lice.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, début ce lundi des opérations de recensement électoral à Bangui, au programme entre autres une cérémonie de lancement dans le 7e arrondissement de la capitale pour l'enregistrement de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Toujours en Centrafrique, après 2 ans d'âpres négociations, l'embargo sur le diamant centrafricain enfin partiellement levé. La décision a été officiellement annoncée à Luanda la semaine dernière par le président en exercice du processus de Kimberley, l'Angolais Bernardo Campos. Une bonne nouvelle pour la RCA qui va pouvoir redynamiser son secteur minier, mis à mal par le conflit qui a secoué le pays à partir de mars 2013. L'explication de Maxime Kazagi, chef de la délégation centrafricaine à la réunion de Luanda.
Cela fait 2 ans que nous sommes sous suspension pour des raisons qui étaient tout à fait fondées, puisque le processus combat les diamants de conflit. Et ce cas de figure a bien changé, cette situation a bien changé depuis longtemps, en tout cas sur une bonne partie de notre territoire. La paix s'installe, revient. Nous avons une situation où particulièrement toute la zone ouest de notre pays est libre de toute situation difficile. Il en est de même progressivement sur toute la zone centrale et est. C'est ce que nous avons mis en avant. Bien sûr, une bouffée d'oxygène. Nous exportons en général plus ou moins 1000 carats de diamants pour une valeur de 60 millions de dollars. Sur le cas perçoit des taxes, mais surtout à partir desquelles une bonne partie de la population centrafricaine vit. Et bien entendu, ça va de relancer l'économie et venir aider un peu le bois qui était source de revenus à l'exportation. Et le diamant reprendra progressivement sa place traditionnelle. Et cela va soulager pour payer les salaires, pour investir. Et bien entendu, cela fera revenir des investisseurs dans le pays.
Monsieur Maxime Kazagi, ces négociations ont duré 2 ans. Comment elles ont été menées, ces négociations?
Tous les pays qui sont impliqués dans le diamant se retrouvent là et discutent des enjeux du processus de Kimberley. Nous avons présenté une feuille de route. C'était très difficile. Il fallait vraiment qu'on donne des garanties. C'est une levée encadrée, pas conditionnée. Ça veut dire qu'on n'attend pas qu'on résolve ces conditions, mais on lève et on rentre dans les conditions. Hein, on va faire en sorte que les diamants de l'Est ne contaminent pas ceux de l'Ouest. On va faire en sorte qu'on puisse bien identifier. On va d'abord faire l'audit des diamants qui sont stockés. Donc, c'est encadré, mais c'est une levée effective.
Maxime Kazagi, chef du processus de Kimberley pour la Centrafrique, au micro de Félix Yepassi Zembrou. Au Burundi, on vote ce lundi pour les élections locales et législatives, mais des violences hier soir ont fait au moins 2 morts à Bujumbura, la capitale, selon des témoins oculaires. Nicolas Pinault.
Oui, les bureaux de vote sont ouverts en principe depuis 6h du matin en local et doivent le rester jusqu'à 16h. Les électeurs burundais sont appelés à élire 100 députés. Ce scrutin se déroule dans un contexte tendu puisqu'hier soir encore, des tirs d'origine inconnue ont retenti dans Bujumbura, notamment dans les quartiers de Jabé et Nyakabiga, sans parler des multiples attaques à la grenade de ces dernières semaines. Ces élections, comme en 2010, sont boycottées par l'opposition. Quant aux missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne, elles se sont retirées, jugeant d'avance le scrutin non crédible. L'Église catholique burundaise s'était elle aussi mise en retrait du processus électoral. Washington, de son côté, a annoncé samedi la suspension de son aide à la CENI. La Commission électorale nationale indépendante, contestée par l'opposition, affirme de son côté que tout est fin prêt pour ces élections.
En Égypte, le convoi du procureur général Hicham Barakat a été la cible d'un attentat à la bombe ce matin dans le quartier de Héliopolis, au nord du Caire. Selon l'agence de presse gouvernementale MENA, les blessures de Hicham Barakat dans cet attentat ne sont pas graves. Et pour parler sur le nucléaire iranien à Vienne, en Autriche, les deux candidats s'attendent à ce que les négociations continuent au-delà du délai limite du 30 juin qui s'était imposé auparavant pour conclure un accord global limitant le programme nucléaire de l'Iran. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.